Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci d'être avec nous pour un nouvel épisode.
Vous le savez, ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Et parlant d'être au rendez-vous, on fait appel à vous, s'il vous plaît, allez nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez le podcast, parce que vous êtes tellement nombreux à être au rendez-vous à chaque semaine, ça nous fait tellement plaisir, mais vous êtes très peu à prendre le temps de nous laisser des notes et d'aller nous laisser surtout des commentaires, de venir interagir avec nous. Donc nous, notre but, c'est pas simplement que vous nous écoutiez, c'est d'interagir avec vous. Donc, s'il vous plaît!
S'il vous plaît! On a vu aussi qu'il y a eu une petite augmentation de notes sur Spotify et on est très contente de ça. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir.
Ça nous fait plus que plaisir. Comme on l'a dit, notre but, c'est d'interagir avec vous, de connecter avec vous. Et surtout, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le temps de venir nous suggérer dans les commentaires des cas dont vous n'avez jamais entendu parler dans d'autres podcasts ou des cas que vous aimeriez simplement qu'on couvre ou même vous nous offrez vos propres témoignages. Ça nous fait tellement plaisir à chaque fois. Un grand merci de nous faire cette confiance-là. Et continuez, slide dans les DMs, il n'y a aucun message qu'on n'est pas contente de recevoir, pour vrai.
Et si des fois on prend un petit peu plus de temps à répondre, c'est parce que on a nos vies aussi personnelles et notre travail, mais inquiétez-vous pas, on va finir par répondre un jour ou l'autre, ça va venir. Soyez sans crainte.
Ah oui, ça c'est une promesse, on répond à tout le monde. Je pense qu'il n'y a jamais un message auquel on n'a pas répondu, jamais. Même si tu fais juste réagir à notre story, ma bonne chum, on va te répondre de quoi ou on va au moins te montrer qu'on a vu ton message. Genre, il n'y a personne qui se fait « leave unread » à Crime et Cocktail, jamais.
Jamais, puis justement, Crime et Cocktail, il y a le mot « cocktail » dedans. Donc aujourd'hui, on continue le janvier sèche, comme que Jess dit, et on boit pas de cocktail. Les deux, on boit un petit... Jess, elle boit un bubbly à la framboise, et moi, je bois de l'eau bien plate. Mais on s'est dit que on allait vous offrir, pas vous offrir, mais vous dire c'est quoi notre prêt à boire préféré. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est une idée de Jess, en passant.
On n'est pas obligé de donner le crédit. C'est une idée Crime et Cocktail. On va dire c'est une idée signée Crime et Cocktail. Oui, parce qu'aujourd'hui, on était un peu plus paresseuses, on va dire les vraies affaires. On n'avait pas nécessairement la motivation de se faire un mocktail. Et je vous ai quand même trouvé une recette du mocktail de mon prêt à boire. Fait que mon prêt à boire préféré se fait aussi en mocktail. Je vous ai trouvé cette recette-là. Mais voilà, on avait envie de consommer notre eau. Et en plus, on parle de glissade d'eau. Donc, ce n'était que thématique. Moi, pour ma part, mon prêt à boire préféré, c'est celui de la distillerie des Trois Lacs, le Limoncello Spritz. Je le trouve tellement bon. Juste assez d'acidité, un petit peu sucré. On dirait une limonade pétillante qui donne un petit buzz. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de cool là-dedans?
Pas grand-chose. Moi, pour ma part, c'est le gin tonic de Romeo's Gin. Puis, j'ai réalisé aussi la semaine passée qu'ils font la version sans alcool en canette. Donc, c'est vraiment génial que tu aies envie d'avoir le petit buzz ou sans le petit buzz. Ils ont la solution pour tout.
Oui, merci à Distillerie Trois Lacs et à Romeo's Gin de faire d'aussi bons prêts à boire, parce qu'on va se le dire, des fois, des prêts à boire, ça goûte un peu la canette. Et ceux-là ne goûtent pas la canette. Mais si toi, t'es pas le genre de personne qui veut des prêts à boire et que tu veux te faire un limoncello spritz, c'est quand même assez simple. T'as besoin de 2 onces de limoncello et c'est toujours mieux lorsque la bouteille est refroidie. Un Italien serait d'accord. Vous allez allonger avec du prosecco et du club soda. Vous pouvez ajouter des tranches de citron dans le verre pour rendre ça instagrammable. Et si jamais vous voulez avoir une version sans alcool, c'est assez simple, ma bonne chum. 2 onces de limonade, t'allonges ça avec du club soda, tu décores avec tes tranches de citron et tu te dis cheers!
Chin-chin! On serait rendu au moment de la cause CSC, mais puisqu'aujourd'hui, comme Jess l'a dit, c'est un épisode sur les glissades d'eau, on n'a pas de cause vraiment à donner. C'est plus un épisode compilatoire, donc on va glisser tout de suite dans le vif du sujet. Jess, de quoi on parle aujourd'hui?
Hey, à trois, on essaie de deviner. 1, 2, 3, on parle de glissade d'eau! Ah, vous êtes bon, crime! Tellement perspicaces, nos auditeurs. Donc, comme on l'a dit dans le teaser de la semaine dernière, on avait envie de partir à l'aventure, de se tenir au frais ou au chaud pour une journée très fraîche de janvier. Et on est présentement dans le vortex polaire lorsqu'on enregistre. Et je peux te dire qu'il fait un vrai froid polaire. Alors pour se réchauffer, on va s'amener dans une de mes activités fétiches d'été, les glissades d'eau. Sauf que pour certaines personnes, ça a été toute qu'un désastre. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont TheAtlantic.com, TheCider.com, History.com, Grunge.com, le Texas Monthly et YouTube. Il fut un temps où un parc aquatique populaire accumulait tellement d'accidents graves qu'on l'a surnommé, littéralement, le parc aux accidents. Noémie, tu penses que c'était où, ce parc-là?
Aux États-Unis.
Bingo! En 1978, le groupe derrière l'ouverture du parc Action Park avait une seule idée en tête, offrir plus de libre arbitre aux visiteurs. En gros, les créateurs, les ingénieurs derrière les attractions du parc aquatique du New Jersey, ils voulaient donner la chance aux glisseurs d'ajuster eux-mêmes l'intensité de leur attraction. Tu me fais déjà une face douteuse.
Respectueusement, mais quelle idée de cave. Surtout aux États-Unis. Je veux pas throw shade aux États-Unis, peut-être un petit peu, mais il me semble... Je t'entends dire ça, puis je me dis juste, mais quelle idée de cave.
C'est comme, mettons, l'idée de vendre des fusils chez Walmart, tu sais. Discutable.
Exactement.
Donc justement, c'est exactement dans cet ordre de mauvaise idée qu'a été créée la glissade Alpine Slide. C'est une glissade tellement haute que ses passagers peuvent seulement atteindre le sommet avec des remontées mécaniques, tu sais, comme au ski. Donc des aventuriers, ils s'assoient sur un petit véhicule duquel les vitesses sont ajustables, sauf que ben, les vitesses, plus souvent qu'autrement, elles étaient défectueuses, tout comme le système de frein. Résultat, il y a de nombreux individus qui étaient juste pas capables d'arrêter à temps et il y a plusieurs embouteillages qui survenaient à la fin de la piste. Donc, c'est une glissade d'eau dans laquelle il y a des petits véhicules, les gens y prennent place et ils peuvent comme conduire le véhicule, mais puisqu'on n'a pas besoin de permis ni d'intelligence accrue pour faire ça, ben ça faisait beaucoup d'embouteillages. L'inévitable n'a pas pu être évité et ça, c'est absolument tragique parce qu'un jeune homme de 19 ans a été fauché alors qu'il a été violemment éjecté de son petit véhicule. Il a fait une chute assez importante, il s'est fracassé le crâne et malgré le fait que ce soit la seule fatalité du Alpine Slide, la glissade d'eau compte 14 fractures et 26 autres blessures à son actif et ça, c'est juste entre 1984 et 1985. La mort du jeune homme de 19 ans, ça a semé un assez gros tollé dans les médias alors que le fondateur du parc a affirmé aux journalistes, aux médias, que le défunt, c'était un employé qui avait délibérément décidé de glisser sans surveillance pendant qu'il pleuvait, mais la famille a toujours démenti cette version-là. Au fil des années, la Tidal Wave Pool, la piscine à vagues du site, elle a obtenu le nom de la piscine à pierre tombale, littéralement. En moyenne, les sauveteurs devaient intervenir et sauver une trentaine de personnes chaque jour. Pour vous donner une petite idée, il était obligatoire qu'il y ait toujours 12 sauveteurs en tout temps. Et ceux-ci ont affirmé en entrevue plus tard qu'ils étaient incapables de quitter l'eau des yeux parce que tout moment d'inattention pouvait être littéralement fatal. Ils devaient même fermer les vagues chaque 12 minutes pour s'assurer que chacun des nageurs était toujours en vie. Il paraît qu'en raison de la crème solaire, de la terre sous les pieds des gens et de déchets humains, c'était quasi impossible de déterminer s'il y avait des gens prisonniers sous les vagues. Donc, même les sauveteurs n'étaient pas capables de savoir si quelqu'un était en danger à cause de l'intensité des vagues et de la malpropreté de l'eau. George Lopez, il avait 15 ans quand il s'est tragiquement noyé dans la piscine à vagues du Action Park en 1982 et quelques années plus tard seulement, il y a une autre personne dont le nom n'a jamais été divulgué qui va perdre la vie dans cette piscine non sécuritaire. Et en 1987, ça va être au tour de Grégory Grandchamp. On parle littéralement de 3 noyades en moins de 5 ans pour la piscine à vagues du Action Park. Et ça, c'est sans compter tous les autres accidents qui sont survenus aussi. Défilé à toute allure dans les rapides qui totalise 1000 pieds à bord d'un kayak, c'est exactement l'expérience qu'offre l'attraction Kayak Experience, toujours au Action Park. Par contre, les rapides, contrairement à ce que plusieurs pouvaient penser, c'était pas des rapides naturels et qui étaient générés par des ventilateurs souterrains. Jeffrey Nathan, il avait 27 ans lorsqu'il va se faire éjecter d'un kayak et qu'il va se faire électrocuter par les ventilateurs.
On dirait, je pensais que t'allais dire qu'il s'était fait aspirer, que les ventilateurs avaient comme bogué puis il avait marché à contresens, mais... C'est aussi pire, se faire électrocuter. On dirait que généralement, c'est un parc d'attractions, eau et électricité, il faut faire quand même attention à ça, tu sais. On essaye de garder ça un peu safe, là. C'est assez intense, là.
Je m'y connais que très peu en création de rapide, mais je veux dire, eau et électricité, ça fait jamais bon ménage. Qui a pu penser qu'une tragédie n'allait pas survenir?
J'aimerais ça savoir la science derrière ça. Comment que ça fonctionnait, les ventilateurs dans l'eau? En tout cas, ce parc-là n'est pas le plus intelligent, mettons. Ça, c'est peu dire. Littéralement criminel, là. C'est fou. Là.
Je suis avec toi là-dessus. on en revient à Jeffrey qui est décédé parce qu'il s'est fait littéralement électrocuter. Le parc a encore une fois nié la cause du décès du jeune homme. Ils vont toutefois prendre la décision de fermer cette attraction de manière définitive après son décès, mais ils refusent de faire un lien avec la tragédie. C'est comme un peu Amazon qui ferme au Québec après qu'une succursale ait essayé de se syndicaliser, puis ils sont comme « mais non, c'est pas à cause du syndicat! » Same, same, but not the same. L'excuse du parc, c'est que l'attraction, elle faisait peur aux gens. Mais c'était une des attractions qui était la plus achalandée, donc on peut s'entendre pour dire que c'est à cause du décès de Jeffrey Nathan, qui avait juste 27 ans quand il s'est fait électrocuter, qu'ils ont décidé de fermer l'attraction et qu'ils ont réalisé que c'était peut-être pas le move le plus intelligent de mettre de l'électrique avec de l'eau. On pourrait penser que j'ai terminé avec les accidents mortels du Action Park, non! Le Cannonball Loop, c'est une glissade assez impressionnante et qui est complètement dans le noir, en forme comme de tube. Le Cannonball Loop, c'est exactement ça à quoi on s'imagine quand on pense à une glissade d'eau d'un parc aquatique. Tu sais, la grande glissade dans laquelle on glisse dans le noir tout le long. Et étant donné que il fait noir tout le long, c'est impossible de voir quoi que ce soit dans le tube. Et les premiers testeurs du Cannonball, c'était des poupées démonstratives qui en ressortaient complètement défigurées. Donc, c'était des poupées qui étaient arrachées de partout, donc vraiment amochées. On veut se douter que les cobayes humains étaient assez réticents à se manifester, mais le propriétaire de l'établissement, il a eu la brillante idée d'offrir une compensation monétaire de 100$ à tous ceux qui vont oser s'y aventurer pour le tester. Un des premiers passagers à avoir essayé la Cannonball Loop a été lancé comme un cannonball. Il est ressorti du tube avec la mâchoire ensanglantée et même quelques dents manquantes, dents qui sont restées coincées dans l'une des structures de la glissade. Et ça fait en sorte que les prochains passagers se font lacérer les cuisses par la dent.
Moi ce genre de glissade-là, même fonctionnelle, je rentrerais pas dedans pour 5 000$. 5 000$, désolé. Donc, tout ça mis en contexte, pour 100$, impossible. Puis de te faire lacérer par la dent d'une personne que tu ne connais pas, même par quelqu'un que tu connais, mais comme arc. Ah, c'est vraiment un cauchemar, ce parc-là.
Ouais, non, vraiment. Puis en plus de toutes les attractions problématiques super dangereuses et qui manquaient vraiment de sécurité, les dirigeants du parc, ils vendaient et ils autorisaient la consommation d'alcool sur le site même. Donc, la plupart des gens qui allaient faire les glissades pouvaient être complètement torchés. Puis le parc s'en foutait, il faisait juste plus d'argent. Il y a plusieurs médecins et employés du système de santé qui ont dit qu'ils étaient souvent appelés pour intervenir à la suite d'intoxication. En 1996, le parc a finalement fermé ses portes, en partie à cause du nombre élevé d'accidents. Et à leur fermeture, il y a 6 personnes qui ont perdu la vie sur le site. Et je veux rappeler qu'on appelait ça le parc aux accidents. Le site a été réutilisé afin d'ouvrir un autre parc en 2014 qui s'appelle le Mountain Creek Water Park. Et ce parc-là est toujours ouvert. Et il y a beaucoup moins d'accidents qui sont recensés, donc tant mieux. On va se déplacer jusqu'en Espagne pour le prochain parc aquatique de notre liste. C'est la ville de Benidorm? Celle-là, là, qui est reconnue pour sa vie nocturne par plusieurs voyageurs, mais pour certains, elle est reconnue pour un parc, et un parc bien particulier, le parc aquatique Aqualandia. Et ce parc-là, il est réputé parce qu'il y a une glissade de 108 pieds de haut, le Vertigo. L'expérience est vraiment plus excitante pour les glisseurs, considérant qu'ils vont faire leur chute à l'aveugle. Enfermés dans une espèce de cubicule en plastique doté d'un plancher, là, les passagers attendent littéralement que le plancher disparaisse dessous leurs pieds avant d'être projetés dans une chute de 108 pieds. Pour Jamie Norman, qui est originaire de l'Angleterre, c'est une glissade géniale, il a vraiment envie de la faire, il est excité. Il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il l'a fait trois fois, alors il se dit « c'est safe, cette glissade-là ». Il va changer d'avis assez rapidement quand il s'apprête à glisser et que la trappe ne s'ouvre que partiellement. Il va être à demi projeté dans le vide et comme incapable de projeter sa chute parce que là, il est comme entre l'attraction et entre le plancher qui est supposé disparaître. Donc, son corps, tant bien que mal, il s'est frayé un chemin pour pouvoir passer dans la trappe et ça l'a laissé la piscine d'atterrissage complètement rouge de sang. Ouvre la station. Tout ce que j'ai senti, c'est des grosses graphines sur l'entièreté de mes jambes, de mes bras, et j'ai senti une grosse claque en plein visage. Quand je suis arrivée au bout, la piscine était remplie de sang. Fin de la station. On pourrait assumer que les sauveteurs et l'équipe du Aqualandia y auraient pris la décision de fermer l'attraction pour la journée, au moins nettoyer le sang et les bouts de peau après le plancher et dans la piscine. Ben non! Ils ont fermé le Vertigo pendant 10 minutes au total. Ils ont envoyé Jamie à l'hôpital en lui offrant des billets gratuits pour une journée au zoo.
Ben oui, parce qu'après avoir failli perdre ta vie, t'as fait lacérer les jambes, puis la face, tout ce que t'as envie, c'est d'aller voir les singes au zoo.
Tu sais, puis je veux dire, ça dit tellement être horrible, parce que c'est vraiment, t'es dans le vide, là, quand le plancher ne s'enlève pas de sous tes pieds. Donc lui, il était comme à moitié dans le vide, à moitié sur le plancher. Fait que là, tu te dis, est-ce que j'essaie de revenir sur le plancher qui risque de s'enlever de sous mes pieds, ou est-ce que j'essaie juste de glisser dans le glissade? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là?
Est-ce qu'il a poursuivi la compagnie?
La légende le dit pas.
Je t'aurais poursuivi ça, moi.
Ouais. T'aurais probablement gagné, d'ailleurs. Bon, heureusement, il a gardé aucune séquelle de l'accident, sauf, mental, parce qu'on s'entend que ça a dû lui donner pas envie de retourner dans ce genre de glissade d'eau-là. Par contre, David Briffaut, qui est un autre touriste originaire de l'Angleterre, lui, il peut pas en dire autant. Il était en train de faire une glissade d'eau qui s'appelle le splash, et pour ceux qui sont déjà allés à la ronde, c'est grosso modo le même principe que le manège, le splash à la ronde. Donc c'est une descente en pente qui fait en sorte qu'il y a une grosse vague qui arrive avec l'impact du bateau sur l'eau. Et donc la vague a violemment frappé David Briffaut sur son dos. Il va perdre automatiquement conscience. L'impact lui brise deux vertèbres. Ça va le condamner à des mois et des mois et des mois de réhabilitation. Je sais pas si vous vous êtes déjà brisé une vertèbre ou quoi que ce soit, mais c'est pas une réhabilitation facile. Après avoir tenté de déposer une plainte officielle aux détenteurs du parc, les détenteurs ont plutôt pointé du doigt David lui-même. Ouvre la citation. Monsieur Briffaut n'a pas respecté les règlements de la glissade. Fin de la citation. Donc, c'est ce que le parc aquatique a dit dans une déclaration aux médias pour contrer la plainte. Donc, la plainte n'a pas été acceptée. Pour faire une petite parenthèse d'une de mes expériences, je pense que j'en ai déjà parlé quand on avait fait l'espèce de détecteur de mensonges. Mais pour ceux qui n'avaient pas entendu cet épisode-là, moi, à Calypso, j'ai suis restée pris dans la même glissade que la première dont on a parlé. Je retrouve le nom, la Vertigo. Donc, dans la glissade qui s'appelle Aqualoop à Calypso, le plancher se dérobe sous tes pieds et ça te fait même faire une boucle, donc un 360. Et je n'avais pas le poids adéquat pour pouvoir faire la boucle au complet. J'étais jeune, j'avais comme 16 ans, je pense. Et le plancher s'est dérobé sous mes pieds. Puis je veux juste dire qu'à la base, j'avais tellement peur, je voulais pas faire cette glissade-là. Moi, juste le fait d'être projeté dans le vide comme ça, c'est non merci. Je préfère de loin être dans un petit tube puis trouver la ride chill. Mais là, ce n'était pas chill et je suis restée pognée au milieu de la boucle et je suis juste redescendue. Il y a une trappe, donc on est venu me chercher, on m'a sauvée. Mais pendant 2 secondes, tout ce que je me disais, c'était que la prochaine personne qui allait être projetée allait littéralement me tuer. Parce que, c'est ça. Ça va vite dans une glissade d'eau.
Oui, je me rappelle, on en a parlé. Moi, jamais je suis embarquée là-dedans. Jamais je vais embarquer dans ça. Et il y a une trappe là parce qu'il y a tellement de gens à qui ça leur arrive. Là, une chance qu'ils sont à leur affaire quand même un peu parce que s'il y avait moindrement pas de neurones comme les autres compagnies qu'on parle aujourd'hui de glissade d'eau, ça aurait pu être un accident super dangereux. Là.
Ah oui, totalement. J'étais complètement affolée. Puis là, le sauveteur, en plus, il riait tellement de moi parce qu'il disait moi, j'en ai vu d'autres. Là. Je vais en revoir d'autres tantôt. C'est usual Tuesday for me. Moi, j'en parle encore 10 ans plus tard. Puis j'ai encore le shake.
Je comprends. Moi, j'en parlerai aussi si j'étais toi.
Là, appel à vous. Si jamais vous avez déjà vécu une situation non sécuritaire ou un espèce d'incident comme ça, peu importe, que ce soit glissade d'eau, parc d'attractions, slide dans DM, s'il vous plaît.
Oui, s'il vous plaît.
De retour à l'épisode, on s'en va aux États-Unis, en Ohio, le Cedar Point Water Park ne se prend clairement pas pour un 7-Up flat. Ils vont se proclamer comme étant le meilleur parc d'amusement au monde, mais le parc a pourtant fait la une des journaux pour une toute autre raison en 2013. Les Montréalais peuvent faire des liens avec l'attraction Le Splash de la Ronde, comme je viens d'en faire mention, pour le manège Shoot for the Rapids. En gros, le concept fusionne le principe de glissade d'eau et de manège conventionnel, donc les gens sont attachés dans un wagon de style bateau et le bateau est accroché à des rails sous l'eau. Les passagers vont se faire tirer jusqu'en haut d'une côte et ensuite ils sont relâchés et avec l'impact de l'eau, il y a une vague. Je viens de l'expliquer. Pour assurer un plus grand roulement, comme à la ronde, l'action compte souvent plus que deux wagons qui se suivent. Donc, aussitôt qu'il y a un bateau qui quitte pour aller faire la vague, le prochain est déjà rempli de passagers qui sont prêts à faire le manège. C'est le cas de 7 passagers qui sont assiégés dans l'un des wagons de Shoot the Rapids en juillet 2013, quand le manège se met en marche et que le bateau-wagon commence son ascension. Il y a un défaut qui est enclenché au même moment, et les passagers sont projetés vers l'arrière pendant 187 pieds avant de dérailler et s'effondrer contre une dalle de béton. Donc, le manège part, le manège commence à monter, le manège arrête au milieu, commence à descendre et au lieu de rester sur les rails, il déraille littéralement et ça fait en sorte que les passagers vont s'écraser dans une dalle de béton. Ce qui fait en sorte que le bateau dans lequel ils étaient attachés va revirer à l'envers. Donc, les gens sont rendus avec la tête dans l'eau. Ils sont attachés. Heureusement, étant donné qu'il y avait beaucoup de témoins et qu'il y avait aussi les sauveteurs, les employés, les 7 personnes ont pu être détachées malgré le fait qu'elles n'étaient pas en mesure de le faire elles-mêmes. Donc, elles vont avoir été sauvées. Et le parc a quand même pris la décision de continuer d'utiliser la même méthode et n'a pas fait les réparations nécessaires pour éviter que ça se reproduise. Donc voilà. En 2016, par contre, après un autre petit incident, ils vont avoir pris la décision de le fermer complètement. Justement, parlant de Calypso, qui, moi, m'en a fait voir de toutes les couleurs, il n'y a pas qu'à moi qui en a fait voir de toutes les couleurs. Il y a plusieurs personnes, justement, dans les articles que j'ai consultés et même sur les réseaux genre Reddit et les réseaux de discussion, qui affirment que Calypso, c'est probablement le parc aquatique le moins sécuritaire au Canada. Et ce parc-là a été ouvert le 7 juin 2010. Et je sais pas pour toi, Noémie, mais moi, je m'en souviens, c'était partout. Tout le monde, toutes mes amies allaient à Calypso, je voulais donc y aller. C'était tellement un gros buzz autour de ce parc d'attractions-là. Je sais pas si tu t'en souviens.
Oui, pendant la journée d'été, on pouvait y aller avec l'école. Puis je me rappelle, je suis allée cette fois-là. Je pense qu'on avait parlé dans l'autre épisode. Puis ça a vraiment été une journée de marde parce que quand on est arrivé là, il faisait 15 degrés dehors. Il y a une fille qui a fait de l'hypothermie. C'était... ouais. Fait que moi, non, j'ai pas tant des bons souvenirs de Calypso. Puis je sais pas si je pense que je suis retournée peut-être une fois après. Fait que... je suis pas une grande consommatrice du contenu de Calypso.
Noémie n'est pas la clientèle cible de Calypso.
Puis j'ai l'impression, avec l'épisode d'aujourd'hui, que tu vas encore plus me convaincre que je fais la bonne affaire de pas y aller.
Ah, peut-être. Donc aujourd'hui, pour te parler de Calypso, je te parle d'une attraction en particulier. Je te parle du Steamer. Est-ce que tu sais c'est quoi?
Non, mais j'ai... ça non plus, ça me donne pas un bon vibe. Ça, j'ai pas un bon feeling.
Mais oui. T'as une bonne intuition, ma bonne chum. Donc, sur le site internet, le Steamer s'est comparé à un géant bol de toilette dans lequel les glisseurs vont grimper sur un tube pour se faire siphonner dans une plus petite glissade après avoir tournoyé dans le gros bol. Grosso modo, c'est le même principe qu'une toilette. Et moi, je sais pas pour toi, mais c'est mes attractions préférées, celle-là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le fun, ça.
Mais en 2011, ça n'a pas été l'attraction préférée de certaines personnes parce qu'il y a plusieurs accidents qui vont commencer à être recensés dans le Steamer. Le courant était juste trop fort, donc il y a des passagers qui se faisaient éjecter du tube avant d'être siphonnés dans la glissade et ils en ressortaient quand même blessés, ou même il y en a qui se prenaient des bonnes tasses d'eau, qui s'étouffaient ou qui en ressortaient juste complètement terrorisés parce que malgré le fait que certaines glissades soient faites pour que ce soit toi qui fasses la crotte... Tu sais, sans tube, là, des fois, c'est toi qui peux glisser avec ton corps. Je pense, par exemple, à Valcartier, qui en a deux côte à côte. C'est super le fun à faire. Mais le Steamer, faut vraiment que tu restes dans ton tube. Parce que, c'est une glissade faite pour des tubes. Donc, c'est assez dangereux et c'est assez gros et impressionnant si tu tombes dedans sans le tube.
Est-ce que c'est celle que... est-ce que t'es tout seul dans ton tube ou t'es plusieurs personnes dans le tube? Est-ce qu'on est au courant de ça?
Ils sont deux ou plus. En tout cas, dans la vidéo que j'ai regardée, il y a une fille en avant, puis tu vois les pieds du gars en arrière qui a l'air de filmer. Donc, plus qu'une personne.
OK, parce que je me rappelle pas où. Je sais qu'une fois, j'ai fait un manège aquatique. Je peux appeler ça comme ça. Que c'était un peu dans ce style-là, mais on était plusieurs sur le donut, là, comment t'appelles ça, le truc gonflable.
Le tube.
Merci. C'est pas facile aujourd'hui. Puis on était beaucoup, mais moi, je pesais pas beaucoup parce que j'étais quand même jeune. Puis je revolais un peu. Il fallait que ma tante me ramène. C'est tellement dangereux, là, ces affaires-là.
Si je m'abuse, c'était probablement au parc aquatique de Pointe-Calumet.
Ça se peut.
En tout cas, il y en a une comme ça à Pointe-Calumet, puis ça brasse.
Et là, j'ai hâte de savoir ce qui se passe avec le Steamer.
Je pense que tous nos auditeurs aussi. Alors, on replonge. Touloum. Donc, ce qui s'est passé avec le steamer, dans le fond, c'est que de nombreuses personnes ont été éjectées de leur siège, se sont blessées, se sont écorchées parce que, puisque c'est une attraction qui est faite pour être sur un tube, ben ils prennent pas en considération que quelqu'un peut juste tomber du tube et donc la glissade est pas nécessairement faite pour que ce soit un humain qui glisse dessus, donc c'est vraiment pas agréable lorsque ça t'arrive. Et au total, il y a 20 accusations de violation de sécurité qui ont été déposées contre le parc Calypso. Et de ces plaintes-là, il y a 14 plaintes qui ont été déposées après des blessures infligées par le steamer en tant que tel. Et les plaignants disent dans leur plainte que le parc n'informe pas suffisamment les clients des réels dangers reliés à certaines installations du parc. Et lui, le parc, en réponse, a plutôt pointé du doigt l'inspecteur des glissades ciblées ou même le glisseur lui-même. Et a continuellement défendu ses installations en disant que le parc est sécuritaire, un point c'est tout. Si on prend en considération mon histoire de tout à l'heure, moi j'ai vécu un incident, oui, soit, mais la sécurité était là, il y avait une trappe, il y avait une mesure de sécurité pour s'assurer que ben il n'y avait pas de fatalité. La question se pose, est-ce qu'on aime mieux en tant qu'aventurier un parc d'attractions qui a pas de failles, qui est irréprochable, ou un parc qui est disposé pour régler les problématiques et qui en est pleinement conscient?
La deuxième option, puis quelque chose que je remarque qui revient littéralement dans chaque parc, dans chaque histoire que tu racontes, c'est que la compagnie, une fois qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils pointent du doigt au lieu d'accepter le fait que oui, on a fuck up, on devrait own up à ça, puis essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas.
Imagines-tu si Boeing faisait ça avec tous leurs accidents? Et si c'est parce que c'est la faute du pilote, là.
Juste de sa faute à lui. Les hôtesses de l'air aussi.
On vous salue d'ailleurs, toutes les pilotes et toutes les hôtesses de l'air. Merci beaucoup pour ce que vous faites et merci beaucoup de prendre, prendre des vols de Boeing. Moi, je sais pas si j'aurais l'étoffe d'embarquer dans des avions, surtout les Boeing qui sont au cœur de plein d'accidents ces derniers temps, à tous les jours, comme travail. Je sais pas comment vous faites pour avoir ce courage-là, pour vrai. Bravo.
Bravo. Merci de me servir mes petites pinottes à chaque fois que je suis dans l'avion.
Tes petites pinottes, pis ta demi-bouteille de vin blanc chaud.
Oui, effectivement, qui coûte vraiment trop cher.
Aujourd'hui, on va terminer le topo avec le pire accident de toute l'histoire des parcs aquatiques. Et Noémie, on s'en va où, tu penses?
J'ai un feeling que c'est aux États-Unis.
Oh, que t'es perspicace! On termine bel et bien avec les États-Unis. On s'en va au Kansas City, dans le parc Schlitterbahn. À cette époque-là, le parc est reconnu pour leur glissade Verrückt. C'est bien évidemment inspiré du mot allemand, la folie, et cette glissade-là porte très bien son nom. C'est la plus grande glissade d'eau au monde, elle s'élève sur 169 pieds. Pour vous donner une idée, là, la glissade est littéralement plus haute que les chutes du Niagara, rien de moins.
Les gens qui pensent à ce genre de manège-là, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils vont bien? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ah, mon Dieu!
Le principe de cette glissade-là est assez simple. Les passagers doivent embarquer à bord d'une embarcation style bateau gonflable. Donc, c'est comme un mini bateau gonflable. Ils vont attacher leur ceinture et vont se positionner en avant de la grille. Et une fois que la grille est levée, ben, le bateau est entraîné dans une chute d'environ 110 km/h. Quand même, hein?
Et que ça va mal finir. Ah, oh, que ça va mal finir. Même si on faisait pas un épisode aujourd'hui sur les glissades d'eau, tu me parlais de ça dans la vie tous les jours, je me dirais, ce qu'elle me raconte en ce moment, ça va mal finir.
Je te confirme. Une première fois, le bateau descend à 110 km/h et après la première chute, à cause de la vitesse de la chute, le bateau reprend la hauteur en remontant une nouvelle pente pour en descendre une autre. Pour vous donner une idée, la glissade, elle va tellement vite et c'est tellement un concept audacieux que les créateurs ont dû repousser son ouverture en raison des tests effectués parce que les sacs de sable qui étaient envoyés en guise de passagers étaient projetés dans les airs. Puisqu'ils voulaient s'assurer que ben aucun passager ne fasse comme les sacs de sable et se ramasse dans les airs et soit projeté vers sa mort, le parc a eu la brillante idée d'installer un grillage en métal en haut de la glissade. On vous a laissé le lien dans la description de cet épisode si jamais vous vouliez aller regarder une démonstration sur YouTube. C'est là, on vous l'a laissé. En gros, c'est une glissade nouveau genre qui veut, ouvre la station, défier les lois de la nature, ferme la station, et surtout, ben, révolutionner le monde des glissades d'eau, parce qu'on le sait, les États-Unis, c'est toujours plus gros. Faut dire que les installations dans les parcs aquatiques, ils se révolutionnent de plus en plus là à l'époque, et on est bien loin de la glissade d'eau régulière et simpliste qu'on peut retrouver dans la plupart des parcs aquatiques. Donc, c'est exactement sous cet ordre d'idée que les créateurs, les ingénieurs, ont cherché des moyens de se renouveler et, ben, pour eux, on va juste dire que ça a le moyen fonctionné. Pour ce qui est de Verruckt, à l'ouverture, ça fonctionne bien. La glissade, elle attire les aventuriers par milliers et rapidement, elle obtient une grande notoriété. Les gens trippent sur la glissade jusqu'au 7 août 2016. Le parc aquatique donne un billet à tous les législateurs de l'État du Kansas pour venir profiter du parc le temps d'une journée complètement gratuitement avec leur famille. Scott Schwab, qui est lui-même législateur de l'État, il est super content. C'est une occasion parfaite pour profiter d'une belle journée ensoleillée avec sa femme et ses 4 fils. Le membre qui est certainement le plus excité de la fratrie, c'est Caleb Schwab, un jeune garçon de 10 ans avec une soif d'aventure inestimable, qui aimait vraiment les sensations fortes. Alors une journée au fameux parc avec la fameuse glissade qui est tant populaire, ben ça l'excite vraiment beaucoup. C'est le seul courageux de la famille qui veut monter à bord du Verruckt, alors il le fait, il monte les nombreux escaliers, il prend place à bord du petit bateau dans le rafting gonflable, il s'y installe, le sauveteur attache la ceinture de sécurité à sa taille, sur ses épaules, et il y a 2 sœurs qui montent derrière lui dans le petit bateau pour faire la ride avec lui. Quand la grille s'ouvre, le petit bateau dans lequel Caleb est sécurisé va amorcer sa descente et tout se passe bien pour la première pente. Mais plutôt que de rester dans le périmètre de la glissade et d'amorcer la deuxième pente, le bateau va plutôt se faire projeter dans les airs. Et les prochains détails sont vraiment graphiques, alors âme sensible, c'est ici qu'on se dit à la prochaine. Le bateau dans lequel Caleb Schwab était va être projeté directement dans le grillage métallique. Et sa tête va se prendre dans le grillage et va être automatiquement décapité.
Je suis sans mots, mais c'était à quoi qu'ils pensaient, les gens qui ont mis ça en place? Évidemment que ça allait faire ça. Pas évidemment exactement cette situation arriverait, mais on y va avec la logique des choses. Grillage métallique projeté avec beaucoup de force. Un membre risque d'être décapité, justement, là, d'une personne, là.
Non, c'est absolument, absolument horrible. Je peux même pas imaginer tous les gens qui étaient proches, mais surtout sa famille qui l'attend au bas de la glissade. Et il y a 2 filles avec lui sur le bateau qui doivent voir tout ça. Donc, ils ont littéralement vu la tête de Caleb être prise dans le grillage. Et ensuite, ben le bateau, la gravité veut que le bateau est redescendu, mais la tête, elle est restée dans le grillage. Donc, comme je disais, le bateau a littéralement continué sa descente avec juste un corps sans tête et les 2 filles tétanisées à l'arrière. Évidemment, ben, le bateau s'est rempli de sang et les filles s'en sont pas sorties indemnes. Là, ils ont eu des blessures, elles aussi. C'est juste que, ben, heureusement pour elles, les blessures ont été beaucoup plus minimes que les blessures traumatiques, émotives, de choc post-traumatique qu'elles ont eues après. Elles expliquent que ça a été beaucoup plus difficile de se remettre de ce qui s'était passé à Caleb et des images qu'elles ont vues que de se remettre des blessures que la glissade leur a infligées. Puis, je le rappelle encore, sa famille l'attend au pied de la glissade. Et aussi, ben, tous les autres visiteurs du parc ont vu Caleb se faire décapiter et ils ont vu les services d'urgence aller rechercher la tête par la suite. Justement, parlant des visiteurs, il y en a un qui a offert son témoignage aux médias et il a dit « Ouvre la station, c'était aussi horrible que vous pouvez vous l'imaginer. Un vrai film d'horreur, un cauchemar incompréhensible, je peux pas le décrire et je pourrai jamais. » Fin de la citation. Il est dit que des visiteurs ont compris ce qui se passait avant la mer, donc ils l'ont empêché de voir ce qui se passait et de voir le corps mutilé de son enfant. Et malheureusement, les frères de Caleb, eux, ils étaient toujours au pied de la glissade lorsque le petit bateau est descendu. Les 2 sœurs qui étaient à l'arrière avec Caleb ont été prises en charge par les services d'urgence et, comme je l'ai dit, on n'a jamais craint pour leur vie, malgré le fait qu'elles vont la passer à essayer de se remettre de ces images-là. Les funérailles de Caleb vont se tenir 5 jours après le décès et toute son équipe de baseball va s'y être rendue pour lui rendre hommage. Sa famille est complètement atterrée, là, avec raison. Je veux dire, c'était supposé être une journée idyllique, des billets gratuits, la glissade d'eau de ses rêves et il se fait juste décapiter de manière tellement glauque. L'enquête pour comprendre les circonstances derrière la mort du petit Caleb Schwab va démontrer que le parc Schlitterbahn avait vraiment, vraiment négligé les rapports d'incidents et l'aspect sécuritaire de la fameuse glissade Verruckt. Les autorités vont réussir à retrouver 11 rapports d'incidents qui sont survenus dans la fameuse glissade en l'espace de 2 ans. Et dans ceux-ci, il y a 5 rapports qui stipulent clairement que le petit bateau, il s'est fait projeter dans les airs. Donc, il y a plusieurs passagers qui ont souffert de blessures mineures au cou, à la nuque, au dos, en en raison du grillage. Comme tu l'as dit tout à l'heure, comment est-ce qu'ils n'ont pas fait 1 plus 1 égale 2 et qu'ils ne se sont pas dit un jour ça va être tragique?
C'est comme dans n'importe quoi, ils attendent que quelque chose arrive pour que quelque chose change. Puis même à ça, on l'a vu dans tous les cas que tu as parlé aujourd'hui, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change. Ils font juste pointer du doigt n'importe qui sauf eux-mêmes.
Absolument déplorable. Justement, dans l'enquête, les autorités vont aussi découvrir l'historique des tests qui ont été faits avant l'ouverture de la glissade et ils vont constater que ben le problème des bateaux volants, c'était un problème qui était au vu et au su de tous. Là. Ils le savaient très très bien que leur bateau s'envolait après la deuxième chute. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas corrigé cet aspect-là de la glissade avant de l'inaugurer? Pourquoi est-ce que les créateurs ont juste décidé d'y installer un grillage? Un grillage en métal! La glissade, elle a été automatiquement fermée, c'était non discutable. Les autorités ont empêché le parc d'ouvrir à nouveau cette glissade-là. Par contre, ils ne vont pas la détruire parce que ben elle est maintenant sous enquête, parce que les autorités enquêtent maintenant un possible crime, parce que ben de la négligence, ça peut être criminel. Après des mois et des mois d'enquête, un jury décrète que ouvre la station. Au lieu d'utiliser des mathématiques fondamentales et de se fier aux lois de la physique pour construire la glissade, les créateurs ont tout fait à la va-vite en se fiant exclusivement sur la méthode d'essai-erreur. Malgré le fait qu'ils étaient conscients que des bateaux pouvaient s'envoler et donc tuer leurs passagers, ils ont tout de même délibérément pris la décision d'ouvrir l'attraction. Fin de la station. Ils vont accuser le directeur des opérations de la fameuse glissade d'avoir caviardé les informations remises aux policiers. Le parc et le propriétaire de la glissade vont être accusés de coups et blessures involontaires aggravées, de mise en danger aggravée d'un ou de plusieurs enfants, d'ingérence dans les enquêtes des forces de l'ordre et d'homicide involontaire pour la mort de Caleb Schwab. La compagnie de construction derrière la conceptualisation de Verruckt va aussi être accusée de coups et de blessures aggravées, de mise en danger aggravée d'un ou de plusieurs enfants et de meurtre au deuxième degré. Les accusations vont cependant être abandonnées en 2019, près d'un an après la démolition officielle de la glissade qui a coûté la vie du petit Caleb Schwab de 10 ans.
C'est tellement triste, parce qu'au travers de tout ça, c'est un enfant qui a perdu la vie de façon complètement dégueulasse. Puis, les deux jeunes filles aussi qui sont traumatisées à vie de ce qu'elles ont vu, les parents, les frères de Caleb, c'est complètement traumatisant. Ça me donne vraiment pas envie d'aller dans des glissades d'eau. Je suis vraiment contente qu'il fasse moins 20 dehors puis qu'on soit en plein mois de janvier.
Oui, mais il faut prendre en considération, c'est un peu le même principe que les vols d'avion. T'sais, on pourrait s'empêcher d'aller en avion parce que ben y a eu des accidents dans les dernières années. Mais il faut se rappeler que il y a beaucoup d'avions qui volent à chaque jour et qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents. Donc, même chose pour les glissades d'eau. Là, je veux dire, dans un épisode compilatoire, ça peut sonner assez intense parce que je vous les enfile toutes, une après l'autre. Mais habituellement, c'est des attractions qui sont assez sécuritaires, surtout si vous prenez vos propres mesures de sécurité, comme ta tante qui te rattrapait quand tu volais en dehors de ton tube.
En tout cas, un conseil à donner, pas de glissade d'eau aux États-Unis, la gang. On n'y va pas.
Savez-vous quoi? Écoute, vas-y juste donc pas aux États-Unis, tant qu'à y être, mettons. Si tu peux l'éviter, évite-le donc.
Exactement.
C'est tellement triste parce que c'est tellement, tellement un beau pays. On est allés toutes les deux. C'est tellement beau. Il y a tellement de beaux paysages. Il y a tellement de beaux endroits. Mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, moi, je pense que je me tiens loin.
Non, pas de plan d'y aller de sitôt, ça c'est certain.
Ce qu'on va faire de sitôt par contre, c'est enregistrer un autre épisode pour vous. Alors, la semaine prochaine, No, tu me parles de quoi?
Je vais être vraiment plate cette semaine parce que je n'aurai pas tant un teaser. J'hésite encore en deux cas, mais les deux cas se déroulent dans un peu dans la thématique. Ben, voyons, t'as parlé, je l'aimerais parler. Les deux cas baignent dans la violence conjugale, vu qu'on va parler... on est dans la Saint-Valentin, au mois de février, on veut les deux en profiter pour parler de ça. Puis c'est une cause qui est super importante, nous, à CIC, on le dit souvent, moi puis Jess, la violence conjugale, on en parle beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça, je veux mettre en lumière une cause, un cas qui a rapport à ça, mais je sais pas encore lequel. Fait que je peux pas vraiment faire un teaser, mais vous savez un peu, ça va être quoi le sujet.
Et par la même occasion, tu viens de teaser notre mois de février en entier, mais oui, ça va être un mois sous le thème d'homicide commis dans un contexte conjugal. Donc, on dit pas que ça va être nécessairement de la violence conjugale ou nécessairement un féminicide, mais on va se pencher sur des cas qu'on appelait autrefois des crimes passionnels. Et là, ça m'échappe pourquoi on ne peut plus dire ça, mais apparemment que c'est plus correct de dire ça. Donc, on s'excuse à tous ceux qu'on offense si on dit ça, mais voilà, ça va être dans ce contexte-là. Alors, on se retrouve dans ce contexte-là, le prochain épisode à
Crime et cocktail.
Cheers, guys!
Chien, chien!